Merci pour votre accueil, merci pour ce début de culte. Et j'aimerais partager avec vous un passage dans l'Évangile selon Marc. Et nous allons découvrir, au travers de ce passage, plusieurs aspects de la personne de Jésus-Christ. Mais juste avant de nous lancer directement dans la lecture et dans l'analyse de ce passage et de voir aussi qu'est-ce qu'il a à nous apporter aujourd'hui, juste une petite question de réflexion personnelle. On ne va pas forcément faire tout un partage, mais posez-vous la question, avez-vous déjà été l'objet ou l'auteur d'un acte d'amour extravagant? Et comment les gens autour de vous ont-ils réagi? Est-ce qu'ils étaient plutôt enthousiastes, est-ce qu'ils ont partagé ça, ou est-ce qu'ils étaient plutôt critiques et ils ne comprenaient pas vraiment votre acte? Vous allez voir que le texte que nous allons lire dans un court instant, eh bien, présente aussi un acte d'amour extravagant, mais les réactions suscitées par cet amour n'ont pas forcément été toujours très positives. Donc le texte que nous allons lire maintenant se trouve dans l'Évangile selon Marc. Et là, nous avons une petite difficulté à concilier les différents évangiles ensemble, puisque il y a deux récits qui parlent. En fait, donc dans Marc, dans Matthieu et dans Jean, on raconte ce récit. Et dans Luc, on raconte un autre récit aussi de quelqu'un qui répand du parfum, mais ce n'est pas le même récit, ça c'est sûr. Mais pour Matthieu et Marc, le passage que nous lisons a lieu 2 jours avant la Pâque, alors que dans Jean, au chapitre 12, il est dit que ce texte a lieu 6 jours avant la Pâque. Alors voilà, nous sommes là devant une petite difficulté, comme il y en a quelques-unes dans la Bible pour concilier la chronologie des évangiles, mais je pense qu'il ne faut pas s'alarmer plus que ça. Ça ne remet pas en doute la cohérence du texte biblique. C'est simplement que l'on peut penser sans doute que Marc ou que Matthieu n'ont pas forcément mis cet événement dans la chronologie, dans l'ordre chronologique, mais plutôt dans un ordre qu'ils ont eux-mêmes choisi pour présenter la personne de Jésus. Ou alors, une autre interprétation, c'est que peut-être le récit de Jean, c'est un autre épisode que celui rapporté par Marc et Matthieu. Mais lisons déjà le texte et essayons de comprendre ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Et qui est Jésus au travers de ce texte? Qu'est-ce que nous apprenons de plus et qu'est-ce que cela peut changer aussi dans notre vie? Donc, je vous propose de lire et le texte est affiché. Je vous remercie. Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux et pendant qu'il était à table, une femme vint avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de nard pur et très coûteux. Elle brisa le flacon d'albâtre et lui versa le parfum sur la tête. Quelques-uns se disaient entre eux avec indignation: À quoi bon perdre ainsi ce parfum? On aurait bien pu vendre ce parfum-là plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre elle. Mais Jésus dit: Laissez-la. Pourquoi la tracasser? C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir à mon égard. Les pauvres, en effet, vous en avez toujours avec vous. Et quand vous voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé l'Évangile dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle a fait. Alors nous allons voir ici une rencontre très spéciale entre Jésus et donc cette dame qui n'est pas nommée dans l'évangile selon Marc. Donc dans l'évangile selon Jean, il s'agit de Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Donc si c'est le même événement qui est raconté par Jean et par Marc, c'est Marie. Mais en tout cas, Marc ne mentionne pas qui est cette dame. Et donc, c'est une rencontre entre Jésus et cette dame, et nous allons voir que Jésus valorise cette femme, qu'il est attentif aux pauvres et qu'il est digne du plus grand hommage. D'abord, Jésus valorise une femme. Il se montre sensible. Il se laisse approcher. Il reçoit l'huile sur la tête. En fait, il accueille le geste. Il reçoit, il ne rejette pas, il ne repousse pas. Il n'entre pas dans la critique, comme c'est le cas des gens qui sont autour de lui. Il accepte d'abord, il ne juge pas. Il discerne ici un acte de profonde générosité. Jésus, en fait, connaît le cœur des personnes. Et ce n'est pas la première fois dans les évangiles où on voit que Jésus connaît l'attitude du cœur. Par exemple, deux chapitres avant, dans Marc chapitre 12, je vous lis un extrait où l'on voit aussi que Jésus sonde les cœurs. Assis en face du tronc, Jésus regardait comment la foule mettait de l'argent dans le tronc. De nombreux riches mettaient beaucoup. Vint une veuve pauvre qui mit deux petites pièces, quelques centimes. Appelant ses disciples, Jésus leur dit : « En vérité, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc. Car tous ont mis en prenant sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Donc là encore, c'est un autre exemple aussi où une femme est mise en avant par Jésus, et Jésus, on voit qu'il sonde les cœurs et les motivations. Jésus est présenté comme quelqu'un de sensible dans ce texte. Il se présente lui-même comme le bon berger qui prend soin de ses brebis, en Jean chapitre 10. Il se présente comme celui qui est doux et humble de cœur, en Matthieu 11, 29 par exemple. Et même, il va jusqu'à utiliser l'image d'une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes pour parler en fait de l'affection qu'il a pour son peuple, en Matthieu 23, 37 par exemple. Et donc, une première question que je peux vous poser, quelle image avons-nous de Jésus? Connaissons-nous un Jésus tendre, un Jésus doux, un Jésus humble, un Jésus qui utilise même l'image d'une poule qui veut rassembler ses poussins sous ses ailes pour parler de lui et de son peuple? Connaissons-nous un Jésus tendre? Et je pense que dans cette période troublée, nous avons tout intérêt à nous approcher de Jésus, lui qui est tendre, qui est doux, qui est humble de cœur, et que nous pouvons nous réfugier sous ses ailes pour recevoir sa chaleur. Mais continuons. Jésus prend la défense de cette femme. Alors que cette dame ne fait rien de mal, elle est critiquée. Verset 4 et verset 5, on dit « Quelques-uns se disaient entre eux avec indignation, à quoi bon perdre ainsi ce parfum? On aurait bien pu vendre ce parfum-là plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre elle. Alors vous savez, il y a toujours des bien-pensants, des rationalistes, des calculateurs. Et ces personnes-là qui émettent ces critiques, c'était sans doute des personnes respectables, des amis de Jésus, même ses disciples, selon le récit de Jean chapitre 12. Mais Jésus leur donne tort. Eh bien, cela me fait réfléchir, parce que parfois la sagesse, la bienséance, la politesse, le politiquement correct peuvent devenir des obstacles à la vie de foi et à l'abandon à Dieu. N'est-ce pas de la folie d'abandonner son travail pour se lancer dans la mission? N'est-ce pas de la folie de donner à son voisin en cette période de confinement alors qu'on risque de manquer? N'est-ce pas de la folie de manifester tant d'amour pour Dieu? N'est-ce pas de la folie d'être si expansif dans sa manière de louer Dieu, etc., etc. Vous voyez que parfois, des remarques rationnellement justes, politiquement correctes, peuvent constituer des freins même à l'adoration et à la vie de foi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces remarques des bien-pensants qui sont à côté, eh bien, elles sont réfutées par Jésus. Jésus s'oppose aux critiques envers cette femme. Et ce qui est très remarquable dans ce texte, c'est que Jésus va à l'encontre de la majorité masculine pour donner raison à une dame. Il dit, laissez-la, pourquoi la tracasser? C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir à mon égard. Et là, il faut voir le caractère révolutionnaire. Alors qu'il y a plusieurs hommes, eh bien Jésus, lui, donne raison à une seule femme. Donc, dans la culture de l'époque, il s'agissait vraiment d'un acte assez révolutionnaire devant un parterre masculin, de dire non, vous avez tort et c'est la femme qui a raison. Jésus prend sa défense, elle a raison, ils ont tort. Mais non seulement Jésus lui donne raison, mais en plus, il la couvre d'honneur. Et c'est ce que nous voyons par la suite. Et cela est très fort, d'autant plus que cette femme reste anonyme. Alors, si on conçoit que Jean chapitre 12 est un passage parallèle, eh bien, il s'agit de Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare. Mais dans le texte de Marc, elle n'est pas nommée du tout. Donc, c'est d'autant plus remarquable que Jésus fait l'éloge d'une femme qui reste inconnue. Et Jésus l'honore en lui faisant un compliment magnifique. Au verset 8, il dit « Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait ». Ça, c'est le contraire de la remarque qu'on a peut-être eue dans notre bulletin les uns les autres, « peut mieux faire ». Jésus, là, il dit le contraire. Il dit « Ce qu'elle a pu faire, elle l'a fait. Elle ne pouvait pas faire mieux. » Et je me pose la question, avec une grande humilité, est-ce que le jour où nous serons face au Seigneur, il dira de nous « Eh bien, ce que Thomas a pu faire, il l'a fait ». J'espère que ce sera ce type de remarque et pas « bon, il aurait pu mieux faire » ou « il aurait pu faire autrement » ou « davantage ». En tout cas, là, Jésus lui accorde un compliment magnifique. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. C'est un beau compliment que l'on trouve rarement. En plus, son acte revêt toute une portée prophétique et Jésus le valorise. Alors, donc cette femme inconnue donc met de l'huile, du parfum sur la tête de Jésus. Donc et Jésus interprète ça comme un acte qui va anticiper l'embaumement, puisque vous savez que Jésus, une semaine ou deux jours plus tard, selon les chronologies des évangiles, va être mis à mort. Et il va être mis à mort tel un criminel. Il n'aura pas, en tout cas pour le dans un premier temps, donc l'embaumement qui était réservé donc aux personnes qui mouraient dignement. Et donc par anticipation, Jésus reçoit ici un embaumement. Alors est-ce que cet acte a été fait de manière inconsciente? Elle ne savait pas qu'en faisant cela, elle embaumait par anticipation le corps, sans doute, mais on pourrait peut-être aussi penser qu'elle avait écouté les avertissements de Jésus, qu'elle savait que Jésus allait être mis à mort et qu'elle a donc fait cela en connaissance de cause. Le texte ne tranche pas. Mais on sait que, par exemple, dans Marc 10, 45, que Jésus a déjà annoncé sa mort. Il dit « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Donc Jésus avait déjà annoncé sa mort avant ce moment-là. Et puis, il dit, Jésus, pour valoriser, pour honorer cette femme, il dit au verset 9, « En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé l'Évangile dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle a fait. » Voilà un honneur extraordinaire. Dans le monde entier, on entend parler maintenant de cette femme inconnue. Puisque la Bible a été traduite dans beaucoup de langues, malheureusement, il existe encore plusieurs peuples qui n'ont pas accès à la Bible dans leur langue. Mais dans le monde entier, partout où la Bible est accessible, eh bien, nous pouvons lire l'histoire de cette dame. Donc, elle est vraiment honorée de manière extraordinaire. En fait, pourquoi cela? Parce que ce qu'elle a fait s'inscrit dans le plan de rédemption de Dieu qui passe par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Son acte s'inscrit dans le plan de sauvetage que Dieu a mis en place pour réconcilier l'humanité avec lui-même. Elle, cette femme anonyme, sera connue dans le monde entier. Elle, même que les disciples critiquent, sera célèbre pour son acte de générosité. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que la Bible nous promet un grand honneur pour tous ceux qui tiennent bon dans l'épreuve. J'ai toujours été frappé par ce texte de 1 Pierre 1, versets 6 et 7 que je vais vous lire. Aussi, tressaillez-vous d'allégresse, même s'il faut que, pour un peu de temps, vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvée par le feu, obtienne louange, gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Le Seigneur a prévu de nous donner louange, gloire et honneur à nous, pas seulement à lui, mais à nous-mêmes, pour notre persévérance dans l'épreuve, pour notre persévérance dans la foi. En fait, l'honneur de cette femme est aussi un honneur que nous pouvons partager si nous persévérons fidèles au Seigneur. Et le Seigneur nous fait bien entendu preuve de beaucoup d'honneur en nous acceptant et en nous qualifiant d'enfants de Dieu. Nous entrons dans la famille de Dieu par la foi si nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur. Et cela est vraiment un grand honneur que Jésus nous fait. Et donc, une question pour nous aussi, où recherchons-nous l'honneur? Est-ce que ce qui nous donne l'honneur, c'est le nombre de likes sur Facebook quand nous postons une photo de nos vacances? Est-ce que nous recherchons l'honneur auprès des critiques positives des gens respectables de ce monde? Ou est-ce que nous trouvons notre honneur dans le regard compatissant de Jésus-Christ? Nous pouvons rester de petites personnes, des anonymes aux yeux du monde, mais des héros pour le royaume de Dieu. Nous pouvons, je répète, nous pouvons rester de petites personnes, des anonymes aux yeux du monde, mais des héros pour le royaume de Dieu. Alors, il y a des personnes qui sont souvent sur le devant de la scène, souvent des prédicateurs qui ont des titres honorifiques, le titre, je sais pas moi, de pasteur, de prédicateur, qui sont invités, qui prêchent à la télé, etc., etc. Mais cela impressionne peut-être les êtres humains, mais cela n'impressionne pas Dieu. Pour Dieu, le héros, celui qui est honoré, c'est celui qui s'inscrit dans son plan, qui met en pratique sa parole. Dieu ne se laisse pas impressionner par les titres ou par les postes prestigieux aux yeux humains. En d'autres termes, on pourrait dire que le vrai héros n'est pas le grand prédicateur, mais c'est le modeste fidèle qui s'applique à mettre en pratique la prédication. C'est par exemple ce jeune homme qui résiste à la tentation. C'est cette jeune maman qui fait preuve de patience envers ses enfants, etc., etc. Voilà les héros dans le royaume de Dieu. Ce sont ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et donc Jésus valorise cette femme. Les évangiles, c'est-à-dire les biographies de la vie de Jésus, montrent souvent Jésus attentif aux marginaux, aux exclus, aux pauvres. Et là, nous arrivons donc au deuxième point. Jésus est attentif aux pauvres. Le deuxième et le troisième point sont plus rapides. Donc, contrairement à une mauvaise interprétation de ce texte, nous voyons que Jésus est attentif aux pauvres. Au verset 7, il est dit « Des pauvres, en effet, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous voulez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. » En fait, ici, Jésus ne néglige pas du tout les pauvres. Il établit simplement un contraste entre la permanence des pauvres et sa présence courte sur terre, puisqu'il va bientôt être mis à mort, puis ressuscité, puis être enlevé au ciel. Alors, il était coutume de faire un don aux pauvres la veille de la fête de la Pâque juive. Mais ici, il dit Mais ici, pardon, Jésus dit, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Donc il insiste pour que nous prenions soin des pauvres toujours et pas seulement la veille de la Pâque. Sans doute Jésus fait aussi ici une allusion à ce texte de Deutéronome 15:11 où il est dit « Et puisqu'il ne cessera pas d'y avoir des pauvres au milieu du pays, je te donne ce commandement, tu ouvriras ta main toute grande à ton frère, aux malheureux et aux pauvres que tu as dans ton pays. » Vous voyez, il y a encore cette allusion du fait qu'il y a des pauvres. Il ne cessera pas d'y avoir des pauvres au milieu du pays, dit Deutéronome. Et Jésus dit, des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Il y a cette même résonance de la présence des pauvres. Et ces pauvres sont là, et nous devons en prendre soin. C'est déjà le commandement que Dieu avait donné dans le Deutéronome. Hein, tu ouvriras toute grande ta main à ton frère, aux malheureux, aux pauvres. Et nous voyons plusieurs passages aussi des évangiles où Jésus est attentif aux pauvres, Luc 14, 13, Matthieu 25, par exemple. Alors maintenant que Jésus n'est plus avec nous, nous avons la mission de nous occuper des pauvres. L'Église est appelée dans les Épîtres le corps du Christ, c'est-à-dire que l'Église prolonge l'action du Christ dans le monde. Et l'Église est là pour démontrer l'amour de Dieu. Et donc, de même que Jésus a guéri, a nourri, a ressuscité, nous aussi, nous devons prendre soin du monde qui nous entoure. Et le Nouveau Testament nous y encourage à plusieurs reprises. Matthieu 22, 39, Galates 5, 13, 14, Galates 2, 10, Actes 6, Jacques 2, etc. nous encourage à prendre soin aussi des démunis. C'est la mission de l'Église aussi d'aider les pauvres. Alors, nous pouvons remarquer que dans le Nouveau Testament et dans la bouche de Jésus lui-même, il y a clairement un mandat d'action sociale ou compassionnelle ou humanitaire, un appel à l'esprit de service. On pourrait en fait comprendre cela comme un double rayonnement. Un feu émet de la lumière et de la chaleur. On pourrait dire que la lumière, c'est l'explication de l'Évangile. Par des mots, on explique l'amour de Dieu, mais le feu rayonne aussi en chaleur, et ça, c'est la démonstration de l'amour de Dieu par exemple, des actes d'amour, du service rendu au prochain. Et donc, de ce feu de l'Évangile se dégage la lumière, l'explication de l'Évangile, mais aussi la chaleur, la démonstration de l'amour de Dieu. Alors, dans notre contexte de confinement, comment pouvons-nous prendre soin aussi des pauvres qui nous entourent, des pauvres ou des personnes âgées ou des personnes endeuillées? Comment être le corps de Christ dans notre monde? Qu'aurait fait Jésus à ma place? Et nous arrivons au troisième point. Jésus est digne du plus grand hommage. Cette histoire nous met en présence d'un acte démesuré. Le verset 3 nous dit qu'il s'agit d'un parfum de nard, pur, très coûteux. Le nard, pour information, c'est une plante vivace qui vient d'Inde. Donc il y avait bien sûr un coût aussi lié à la rareté de ce parfum. Le verset 3 nous dit que ce parfum est dans un flacon d'albâtre. L'albâtre, c'était donc une pierre blanche. Et donc, on pouvait mettre du parfum dans des vases qui avaient un long col et on brisait le col pour ensuite répandre le parfum. Et donc, le fait que le vase soit brisé montre que c'est l'intégralité du parfum qui est répandu sur la tête de Jésus. On ne peut rien garder puisque le vase est brisé. Et le verset 4 nous apprend que ce parfum coûtait 300 pièces d'argent. Donc, c'est l'équivalent de 300 jours de travail. C'est l'équivalent d'une année de travail qui était dans ce parfum. Peut-être aujourd'hui, on pourrait dire 15 000 euros. 15 000 euros versés sur la tête de Jésus. Une année de salaire. Et Jésus approuve cela. Au verset 6, il dit « C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir à mon égard. » Nous l'avons déjà dit, la femme a embaumé le corps par anticipation. Ce corps qui allait m'être mis à mort, mis au tombeau comme un criminel, c'est que finalement 3 jours après que les femmes sont venues pour embaumer le corps, mais il a été mis comme ça dans la tombe, et bien là, il reçoit un honneur. Jésus est celui qui a donné sa vie en rançon pour beaucoup. C'est-à-dire, Jésus est celui qui a pris la condamnation de nos péchés sur lui et qui en a payé la condamnation, la sentence, c'est-à-dire la mort. En fait, sa mort a été comptée pour la nôtre. Il s'est chargé de la culpabilité de nos mauvaises actions et il en a payé le prix. Et donc, lorsque nous comprenons cela, nous comprenons qu'il n'y a rien de trop précieux pour remercier le Seigneur, parce qu'il est celui qui va nous décharger de notre culpabilité et nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu et de partager la communion avec Dieu pendant l'éternité. Qu'y a-t-il de trop précieux pour remercier le Seigneur? Le Seigneur mérite notre vie entière. Il mérite aussi tous nos efforts pour lutter contre le mal. Il mérite que tous nos biens soient utilisés pour sa gloire, que tout notre temps soit mis à son service, au service de nos frères, au service du monde qui nous entoure. Et finalement, lorsque nous comprenons qui est Jésus, c'est un bonheur, c'est un honneur de pouvoir mettre toute notre personne à son service. Tous les talents qu'il nous a donnés, nous pouvons les faire fructifier pour lui rendre gloire. Alors, il y a de la place pour des actes démesurés quand il s'agit d'honorer notre Seigneur. Rien n'est trop précieux pour celui qui a donné sa vie pour nous. Et lorsque nous lisons le commandement que demande le Seigneur, en Matthieu 22, 36, il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Donc, c'est donc l'entièreté de notre personne qui doit être mise au service de l'amour de Dieu. Et rien n'est trop précieux pour honorer Jésus-Christ. Alors, ce texte, nous arrivons à la conclusion, ce texte nous apprend beaucoup de choses sur Jésus-Christ. Qui est Jésus? Ce texte nous apprend d'abord que c'est quelqu'un qui valorise une femme anonyme. C'est quelqu'un de sensible, quelqu'un de doux, quelqu'un de compatissant. C'est quelqu'un aussi qui est attentif aux pauvres et qui nous encourage à nous-mêmes être attentifs aux pauvres. Et c'est quelqu'un à qui est dû le plus grand hommage. C'est celui qui mérite notre plus grand hommage. Alors, est-ce que dans ma vie, il y a de la place pour Jésus? Est-ce que dans cette période de confinement, il y a de la place pour Jésus? Et quelle place accordons-nous à Jésus? Une autre manière de poser la question est cette question-là. Qu'aimeriez-vous donner à Jésus aujourd'hui? Quel est pour vous l'équivalent du vase d'albâtre rempli de nard pur de cette dame anonyme? Qu'est-ce que vous aimeriez offrir aujourd'hui à Jésus? Accepteriez-vous de lui offrir une prière? Peut-être que parmi les gens qui nous écoutent aujourd'hui, vous ne vous êtes jamais tourné vers Jésus pour lui parler jusqu'à présent. Est-ce que la réflexion sur ce texte ne vous pousse pas peut-être à faire un premier pas vers Jésus et à lui accorder une prière? Peut-être voulez-vous aller encore plus loin et vous voulez accorder à Jésus votre confiance. Confiance que si vous lui obéissez, eh bien, vous allez être dans ses bras et sur la voie que lui veut. Confiance pour votre salut éternel. Vous avez confiance que Jésus est celui qui a donné sa vie en rançon, qui a pris sur lui votre culpabilité pour vous réconcilier avec Dieu le Père. Et peut-être que vous avez déjà fait ces démarches et aujourd'hui vous vous dites, je veux offrir au Seigneur mon cœur, l'entièreté de mon cœur, mes pensées, mes talents, mes rêves, je veux les mettre au service de la gloire de Dieu. Je veux rentrer dans les plans qu'il a prévus pour moi. Qu'aimeriez-vous offrir à Jésus aujourd'hui? Amen.